Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
38 millions de personnes vivent avec le VIH à travers le monde et plus de 12 millions de personnes attendent un traitement qui sauve aujourd'hui la vie. En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690 000 personnes sont décédées de la maladie liée au sida. L'accès au traitement à travers le monde est donc un enjeu prioritaire. En France, environ 170 000 personnes vivent avec le VIH. Quelles sont les avancées dans la recherche pour combattre la maladie? Et comment vit-on avec le VIH en 2020? Nous en parlons avec nos invités ce matin. Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. C'est d'ailleurs le thème de la campagne de Santé Publique France, une campagne de lutte contre les discriminations des personnes vivant avec le VIH et d'information sur les traitements. Avec nous sur le plateau d'Africa Radio, Elodie Aina. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Elodie Aina. Vous êtes directrice de Vers Paris sans sida. Nous rejoint Gustave Da. Il est retraité, originaire du Cameroun. Il vit à Paris, séropositif depuis plus de 20 ans. Merci aussi à vous, Gustave Da, d'avoir répondu à notre invitation. Et au téléphone d'Africa Radio, c'est Aminata Sinon qui nous rejoint. Elle est conseillère en santé sexuelle et droits humains au sein de l'association Ikambéré qui se trouve dans le 93 à Saint-Denis. Alors bon, on va commencer avec vous, Elodie Aina, merci d'être avec nous. Alors quelle est la situation?
Merci, bonjour.
Bonjour, quelle est la situation du VIH aujourd'hui dans le monde et en France?
Comme vous l'avez dit, en 2019, il y a eu 1,7 million de nouvelles contaminations dans le monde. En France, c'est environ 6200 découvertes de séropositivité en 2018. À Paris, c'est 2 à 3 personnes par jour. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que ces chiffres sont en baisse, hein, de 7% entre 2017 et 2018, une baisse de 7% donc des nouvelles infections. Mais quand on regarde le détail de cette baisse, on se rend compte qu'elle bénéficie surtout aux homosexuels masculins nés en France et assez peu aux personnes originaires d'Afrique subsaharienne, puisque les nouvelles contaminations stagnent chez les femmes, sont en léger recul chez les hommes et augmentent chez les homosexuels qui sont nés à l'étranger.
Elodie Aina, aujourd'hui, quels sont les traitements qui sont utilisés en France pour combattre le VIH?
Alors, il y a plusieurs traitements. Il y a les traitements antirétroviraux. Alors, l'effet de ces traitements, ça n'est pas de guérir du VIH. Hein. Il y a une seule personne dans le monde qui a guéri du VIH et les scientifiques s'interrogent encore pour savoir pourquoi. Le traitement ne permet pas de guérir, mais il permet de réduire la quantité de virus qui est présente dans le sang à tel point qu'une personne séropositive sous traitement ne peut plus le transmettre à son partenaire, y compris lors de rapports non protégés. Donc il existe ces traitements pour les personnes séropositives, il existe aussi ce qu'on appelle le TPE, le traitement post-exposition, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a été exposée au virus, elle peut recourir à ce traitement dans les 48 heures pour l'empêcher de contracter le virus. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la PrEP. Donc la PrEP, c'est pas véritablement un traitement, c'est un médicament qu'on prend lorsqu'on est séronégatif pour le rester et qui protège du VIH, un peu comme le fait le préservatif.
Aminata, sinon, alors on a vu de grandes avancées en matière de traitement ces dernières années dans le monde. Alors quels sont aujourd'hui les traitements utilisés sur le continent africain?
Sur le continent africain?
Oui.
Je pense que moi j'habite en France, donc je suis mal cassé vous parler des traitements utilisés sur le continent africain.
Aminata,
ils ont des traitements de première ligne.
De
certains pays de deuxième ligne.
Oui.
Parce que nous voyons arriver chez nous des femmes qui sont encore sous des traitements qui n'existent pratiquement plus en France.
Aminata Simon, parmi les 6000 découvertes de séropositivité en France, près d'un tiers concerne des personnes nées en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un constat que vous faites également et comment l'expliquez-vous?
Alors, c'est vrai que les études ont montré que 35% de femmes et 49% d'hommes venant d'Afrique subsaharienne ont été contaminés en France. Cela s'explique par le fait que ces personnes arrivent dans une grande précarité, une grande pauvreté et ne savent pas où aller ni où dormir. pour les femmes, généralement, elles se font héberger par des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions et qui les obligent d'avoir des rapports sexuels sans préservatif avec eux. Et généralement, ces hommes peuvent parfois être contaminés sans le savoir également. Et c'est ce qui nous arrive.
Alors,
il y a également parcours migratoire.
Oui.
Le parcours migratoire qui est très, très difficile. Et que les femmes subissent des viols, des hommes subissent des viols et arrivent sur le territoire français contaminé.
Alors, Elodie, Aïna, quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la lutte contre le VIH?
Alors, ce qu'on a constaté pendant le premier confinement, d'abord, c'est un effondrement du dépistage, hein, ce qui semble assez logique, puisque tout le monde restait chez lui, et puis que sans doute le VIH est devenu une préoccupation secondaire pour les gens dans cette période très particulière. Bon, le niveau de dépistage est remonté après le premier confinement, mais n'a pas retrouvé son niveau d'avant. Donc, il est vraiment important de pouvoir faire son test. Il y a aujourd'hui plusieurs possibilités pour faire le test. On peut aller en Cégide, où c'est gratuit. On peut acheter un autotest en pharmacie. On peut demander, bien sûr, à un médecin d'avoir une ordonnance. Et puis, dans tous les laboratoires à Paris, il y a une offre jusqu'au 31 décembre, qui sera sans doute prolongée après, qui permet dans tous les laboratoires de franchir la porte, de demander un test sans rendez-vous, sans ordonnance et gratuitement. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important de renforcer le dépistage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture dans les traitements, comme ça a pu être constaté par exemple en Italie, qui a été particulièrement frappée par la pandémie de Covid-19, où là, on a retrouvé, comme autrefois, des décès de personnes séropositive parce qu'elle n'avait pas accès au traitement. Bon, en France, heureusement, on n'est pas arrivé à ces extrêmes.
Mmh. Aminata, sinon, on sait que l'association Icambéré accueille de nombreuses femmes qui sont dans une situation difficile et qui vivent dans la précarité. Est-ce que le confinement, les confinements, parce qu'il y a eu un confinement, le premier confinement durant le mois de mars, est-ce qu'il y a eu un impact du confinement concernant votre action et concernant ces femmes qui ont l'habitude de venir dans votre association?
Alors, il y a eu beaucoup d'impact sur ces femmes. Déjà, l'isolement. Celles qui étaient dans les hébergés au 115 avaient des difficultés, tant financières que matérielles. Il y avait l'isolement, le fait d'être seule, de ne pas savoir, où aller, avoir une personne à qui parler. Et il y a eu également quelques ruptures de traitement. C'était très difficile parce qu'elles avaient peur d'aller à l'hôpital pour aller chercher leur traitement, surtout pour celles qui n'ont pas encore de titre de séjour, qui doivent aller à la pharmacie de l'hôpital pour chercher leur traitement, qui n'y allaient pas. Il a fallu que les médiatrices de santé et toute l'équipe se mobilisent pour rester en contact avec ces femmes, les motiver pour qu'elles acceptent d'aller à l'hôpital prendre leur traitement.
Gustave Da, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être présent ce matin sur le plateau d'Africa Radio. Vous êtes militant actuellement au sein d'une association, on va en parler d'ici quelques minutes. Vous donnez des cours d'alphabétisation, c'est ça ?
Tout à fait.
Ouais. Il y a 20 ans, Gustave Da, le sida était une maladie encore inconnue, méconnue. Lorsque vous l'avez appris, on imagine que cela a été un véritable choc pour vous. Comment avez-vous contracté le virus?
Alors, pour être honnête, je voudrais rectifier, je suis originaire du Burkina Faso.
D'accord.
Et non du
Désolé.
Cameroun. Voilà.
Merci.
Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Alors, en ce qui me concerne, je l'ai découvert à tout hasard lors d'un simple contrôle de routine. Voilà. J'accompagnais une personne très proche de moi qui était en phase sida. Et pour accompagner cette personne, nous avons adhéré à une association et j'y ai adhéré aussi. Je l'accompagnais chez le médecin, je faisais toutes les activités associatives avec elle. Un jour, nous sommes passés au centre de dépistage où les bénévoles de l'association faisaient de la sensibilisation. Ben, j'ai profité, j'ai fait une prise de sang. À l'époque, on prenait les résultats 2 semaines plus tard. 2 semaines après, quand je suis venu chercher, le résultat était positif. Bon, dans un premier temps, c'est l'incrédulité. Voilà, j'ai douté du résultat. J'ai dit, bon, est-ce que je peux aller au centre hospitalier? Ils m'ont dit, bah oui, au contraire, on te conseille. Je suis allé au CHU, j'ai fait le test, il était positif. Toujours incrédule, j'ai dit, bon, je vais aller à la capitale, parce que je n'habite pas la capitale au Burkina. Je suis originaire de la deuxième ville du Burkina, voilà. Je suis allé à la capitale, dans une clinique qui était très réputée à l'époque. J'ai payé, j'ai fait le test, ben il était toujours positif. Bon, ben, là, il fallait se rendre à l'évidence, quoi. Mais sur le champ, c'était compliqué pour moi parce que la personne que j'accompagnais était sous antirétroviraux. Ça nous coûtait très cher. Mais malgré cela, la personne déclinait de plus en plus. Or, moi, j'étais son seul soutien. Ben, il ne fallait pas lui annoncer ma séropositivité à l'époque. Et du coup, il fallait serrer les dents, serrer les poings, continuer à se battre avec cette proche qui, malheureusement, a fini quand même par décéder. Voilà. Lorsqu'elle est décédée, ben, j'ai continué à militer dans l'association jusqu'à développer un cancer. Le lymphome, qui est le cancer dû au virus du VIH. Voilà. En fait, le VIH en lui-même, directement, ne m'a pas causé trop de mal, mais c'est les effets secondaires ou voilà, les conséquences du virus. Et avec donc le lymphome, il fallait faire la chimiothérapie qui ne se pratiquait pas au Burkina à cette époque. Et voilà ce qui m'a amené en France. Et de fil en aiguille, j'ai été traité de mon lymphome, mais la chimiothérapie a eu aussi des effets secondaires sur mon organisme. Aujourd'hui, je porte trois prothèses, deux prothèses totales de hanche, une prothèse à l'épaule droite, et voilà.
Alors, quelle est votre la prise en charge aujourd'hui? Comment vous soignez-vous?
Ben, aujourd'hui, comme l'a dit
Elodie
tout à l'heure, les traitements ont énormément évolué. Aujourd'hui, je suis à un comprimé par jour. Et ce comprimé fait en fait une trithérapie. Voilà, contient trois molécules. Je prends un comprimé par jour et puis c'est tout. Maintenant, avec l'âge, il y a des problèmes de cholestérol et d'autres petits soucis, mais ça n'a rien à voir directement avec le VIH. Hein. Ça, c'est commun à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire que le VIH est devenu pratiquement une maladie chronique quand on est sous soin. Voilà. Et c'est très important de se faire dépister et d'être mis sous traitement. À partir du moment où vous êtes sous traitement, quand la situation est bien maîtrisée, ben vous menez une vie tranquille, quoi. J'ai mené une vie professionnelle tranquille.
Une vie familiale?
Une vie familiale tranquille aussi, il n'y a aucun souci.
Ce que vous dites, et c'est important de le souligner, c'est que le quotidien d'un séropositif aujourd'hui n'est pas différent des autres.
Non.
On peut tout à fait vivre, d'ailleurs c'est le thème de la campagne de Santé publique France et de Vers Paris sans sida.
Voilà, ouais. Vivre avec le VIH, effectivement c'est vivre, voilà, c'est tout simplement vivre, ouais.
Alors comment justement ça se passe au sein de votre famille, avec vos proches? Est-ce qu'ils sont informés de votre séropositivité? Par exemple, vos employeurs, par exemple, est-ce que vous les avez tenus aussi informés de cela?
Alors, il faut dire qu'à l'époque, en Afrique, j'étais un employé de l'État. Bon, du coup, mon employeur, c'était l'État.
Oui.
Et l'État mettait en place des structures de lutte contre le VIH dans tous les services. Le président de la République était lui-même président du Comité national de lutte contre le VIH. Et du coup, j'ai participé au niveau de mon travail et tout ça, quoi. L'annoncer, généralement, c'est la question que l'on pose. Comment l'avez-vous annoncé? Comment l'a-t-on accueilli? Etc. Ouais. Je n'ai pas eu affaire à ça. Voilà. J'étais déjà très préoccupé par cette personne proche de moi, mon entourage l'a su. Au niveau de mon travail, on le savait, puisque j'étais souvent absent du service pour ça. Après, elle est décédée. Les proches et tout le monde a aidé aux obsèques. Après, j'ai continué mon militantisme tranquillement jusqu'à développer mon lymphome. Le lymphome a commencé par un petit ganglion qui a grossi progressivement et qui a pris toute la tête, le cou, etc. Et tout le monde a vu évoluer ce lymphome. Mmh. Tout le monde sait que je suis malade, notamment du cancer et tout. Et puis voilà, je n'ai pas eu affaire directement à une annonce, à l'accueil de... Mais tout le monde le sait. Je fais des émissions télé, des émissions radio, des photos sur les calendriers de Afrique à venir. Moi-même, j'envoie ça à mes amis, à mes proches. Ça s'est passé le plus naturellement du monde. Jusqu'à présent, en tout cas, à ma connaissance et devant moi, je n'ai pas eu de rejet. Peut-être qu'il y a eu des commentaires dans mon dos, mais ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Hein, voilà.
Alors justement, nous allons écouter le témoignage de Fatima Tabal. Elle a 54 ans, elle est originaire de la Mauritanie. Elle vit en France, séropositive depuis avril 2000. Elle déclare que le VIH ne l'empêche pas d'être heureuse. On l'écoute.
Quand j'ai appris que mon mari et moi, on était positifs, j'étais désespérée et j'avais peur. J'ai pensé à ma famille. Bien sûr, j'en savais un peu sur le VIH et ne pas avoir accès au traitement était un grand problème pour moi parce qu'en ce moment, il n'y en avait pas en Mauritanie, il n'y avait pas beaucoup, même en Afrique. J'ai pris de nouveaux traitements ici en France. Je prends tous les jours 2 comprimés en même temps. Donc, c'est une prise, on appelle ça une bithérapie. Et moi, si je prends la bithérapie, c'est parce que j'ai d'autres affections pour vraiment permettre que ces affections-là aussi n'aient pas beaucoup d'influence sur mon VIH et tout. Mais ça va très, très bien. C'est très simple, je n'ai pas d'effet secondaire. Je vis très bien avec. Et ça m'a même permis donc d'être plus résistante face aux autres maladies que j'ai, à améliorer en tout cas mon immunité. Puis, moi, aujourd'hui, je ne suis pas une malade du tout. Je suis une personne qui vit avec le VIH. Je ne transmets pas le VIH. Et puis, le VIH aussi, ne me rend pas malade, ne détruit pas ma vie, ne m'empêche pas d'être heureuse. Je pense qu'il est temps de mettre fin à ces idées reçues par la communication surtout. Et la communication de 2 manières. La première, c'est vis-à-vis des personnes qui vivent avec ce virus. Et ces personnes doivent être sensibilisées, elles doivent comprendre le mode de transmission. Elles doivent comprendre comment elles doivent prendre les médicaments. On doit les accompagner aussi pour l'annonce, qu'elles puissent annoncer à leurs proches que c'est un virus et seulement un virus. Mmh. Et depuis que le monde, on arrive toujours à bout d'un virus.
C'était le témoignage de Fatimata Bal. Alors Gustave, on a entendu Fatimata Bal parler de préjugés, d'idées reçues. Est-ce que vous avez dû faire face durant votre carrière professionnelle et votre vie personnelle à des préjugés, des stéréotypes concernant votre statut sérologique?
Mais comme je le disais tout à l'heure, pas à ma présence. Voilà. J'ai travaillé en France... bien sûr, avec toutes ces prothèses, avec la chimiothérapie qui m'a détruit pratiquement le corps, je suis devenu un travailleur handicapé. J'ai donc le statut de travailleur handicapé. Au niveau de mon travail, j'ai eu droit à un poste aménagé et j'ai travaillé une bonne dizaine d'années. J'ai pris ma retraite. Non. À ma présence, non, je n'ai pas eu de... Voilà.
Et sinon, plus généralement, croyez-vous que la stigmatisation, justement, et la discrimination liée au VIH sont de plus en plus croissantes en France, ou est-ce l'inverse, selon vous?
Je ne dirais pas que c'est croissant, je dirais que c'est constant. Oui. Voilà. La stigmatisation, jusqu'à preuve du contraire, ça me fait toujours sourire lorsque j'entends dire, surtout en Afrique, il y a la discrimination, surtout en Afrique, surtout dans la communauté africaine, etc. Mais non, c'est partout dans le monde. même ici en France. Et dans les associations, on a eu droit à des témoignages. Il y a une année à peine, il y a une dame médecin qui a écrit dans un journal, voilà, j'ai fait le témoignage il n'y a pas longtemps, pour dire elle est médecin, elle est blanche, elle est française, mais elle ne peut pas déclarer sa séropositivité à visage découvert, sinon elle perdrait tous ses malades. Voilà. Il y a une personne aussi que je connais qui fait garde d'enfants à domicile. Elle est blanche, française, vivant en Île-de-France, voilà, en région parisienne. Elle m'a dit, si jamais les parents des enfants savent qu'elle est séropositive, demain, elle est au chômage, elle n'a plus d'enfants. Donc, ce n'est pas une question de communauté africaine, ce n'est pas une question de... C'est tout le monde, en fait. La stigmatisation, elle existe toujours. Les médicaments ont fait énormément de progrès, mais les mentalités n'ont pas évolué aussi rapidement, n'ont pas évolué aussi bien que les traitements. Mmh. Et il est grand temps que les mentalités changent. Et vous, la presse, vous avez un grand rôle à jouer dans cela. Mmh. Voilà.
Élodie Aïna, est-ce que vous aussi, vous avez constaté que les préjugés, les stéréotypes sont encore très, très, très forts concernant cette maladie? Et est-ce qu'il faut plus aujourd'hui que des campagnes de sensibilisation comme celle qui est lancée par vous et par Santé publique France, Vivre le VIH et d'abord vivre? Quels sont les moyens, par exemple, d'autres moyens que vous souhaiteriez avoir justement pour combattre ces préjugés?
Mais le plus important, je pense, aujourd'hui, pour que l'épidémie recule, en particulier chez les Africains qui vivent en France, c'est de soutenir le travail qui est fait par les acteurs communautaires. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont extrêmement actifs. Vous avez cité la FTCR, il y a aussi Afrique Avenir, Ikambéré, La Marmite, Uraka, Marie-Madeleine, Bamesso et ses amis. Bon, tous ces acteurs-là, ils font un travail de dentelle sur le terrain qui est extrêmement minutieux, qui permet à chacun d'avoir une information individualisée, de faire ce qu'on appelle du TROD, c'est-à-dire du dépistage rapide sur le bout du doigt qui permet de connaître son statut sérologique immédiatement et donc d'être mis sous traitement si besoin. Et je pense que vraiment c'est là-dessus qu'il faut renforcer nos efforts, soutenir ces acteurs communautaires. Mmh.
Alors, avec nous, Aminata, est-ce que la situation des personnes qui vivent avec le VIH que vous rencontrez, issues de l'immigration, que vous accompagnez, quelle est leur situation par rapport justement à l'information, au dépistage et justement, est-ce qu'ils parlent de la maladie auprès de leurs proches?
Les femmes que nous accompagnons ne peuvent pas parler de la maladie auprès de leurs proches. Gustave vient de le dire. Les migrants n'ont toujours pas compris que on n'attrape pas le VIH en étant avec une personne, en mangeant avec une personne. Donc, elles ne peuvent pas, pour éviter le rejet de la famille, même parfois de leurs compagnons, elles ne parlent pas du tout de leur séropositivité, puisqu'elles savent aujourd'hui qu'elles ne transmettent plus le virus. Parce qu'elles sont très observantes, nous faisons en sorte pour qu'elles adhèrent au traitement pour cela. Mais pour la formation, actuellement, celles qui ont un niveau assez élevé arrivent à trouver une formation. Et beaucoup font du service à la personne. Beaucoup de femmes font des formations d'assistantes de vie aux familles, d'auxiliaires de vie pour pouvoir trouver un travail rapidement. Quant aux autres, qui sont, cette année, je peux dire qu'à peu près, on a reçu, sur les personnes que nous avons reçues, à peu près 50% sont analphabètes. Nous sommes obligés de leur faire de l'alphabétisation afin qu'elles puissent trouver un emploi. Parce que même pour faire le ménage, aujourd'hui, on te demande de savoir lire et écrire.
Alors, Élodie Aïna, concernant les traitements, est-ce que vous avez constaté des avancées? Mais il y a aussi beaucoup de questions que d'auditeurs se posent et qu'on se pose. C'est-à-dire que là, on parle d'un vaccin concernant la Covid-19, et alors que pour le sida, il n'y en a pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une avancée concernant à la fois les traitements et aussi la recherche d'un vaccin contre le VIH?
Alors, sur la recherche d'un vaccin, ça n'est pas pour un avenir immédiat, mais on peut dire quand même que la science a quand même fait des progrès révolutionnaires dans la lutte contre le VIH. On a souvent une vision obsolète des traitements, mais qui sont aujourd'hui extrêmement efficaces, avec très peu d'effets secondaires, qui peuvent, comme on le disait tout à l'heure, limiter la réplication du virus dans le corps. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne séropositive est à nouveau en bonne santé, elle a une espérance de vie restaurée, hein. L'espérance de vie des personnes séropositives sous traitement aujourd'hui est la même que l'espérance de vie des personnes séronégatives, donc ça c'est un progrès fabuleux. Et puis, bah, comme on le disait tout à l'heure, ça permet le traitement permet de ne plus transmettre le VIH, même lors de rapports non protégés aux partenaires, et permet aussi d'avoir des enfants en bonne santé. Donc aujourd'hui, finalement, lorsqu'on est sous traitement, on peut vivre normalement avec le VIH.
Plus d'infos donc sur la campagne Vivre avec le VIH sur le site de Vert Paris sans sida. Oui, allez-y.
Gustave Da.
Oui, par rapport au traitement,
rapidement.
Les avancées dans les traitements, je voudrais dire qu'il est question de plus en plus d'une injection qui va durer 2 ou 3 mois. Donc pendant 2 ou 3 mois, on ne prend plus de comprimés, rien, on fait juste une injection. Je pense que c'est déjà une expérimentation en Afrique du Sud. Mmh. J'ai vu ça dans un reportage.
Est-ce que voilà. Ce sera le cas en France, selon vous?
Inch'Allah.
Voilà,
très bien.
C'est la bonne conclusion.
Plus d'infos, parce qu'il nous reste juste une minute. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Plus d'infos sur la campagne Vivre avec le VIH, c'est d'avoir Vivre sur les sites de Vert Paris sans Sida, sur Sida Info Service également. N'hésitez surtout pas pour en savoir un petit peu plus sur les différentes activités de l'association Icambéré. Un site internet www.icambéré.com. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus donc, pour cette émission à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH. C'était le 1er décembre dernier. Merci beaucoup.
Merci.
C'est la pause. On se retrouve pour Ambiance Africa juste après.
Merci beaucoup.
Ouais.